cette violence tout de suite, cette violence, ces coups qui tapent dans les oreilles tout de suite, ça m'a plu. Et je suis rentré dedans tout de suite en fait. C'est comme il y a des onctions du Saint-Esprit, moi j'ai reçu une onction métal d'un seul coup.
Noise pollution.
Je ne vois pas comment une société responsable peut fermer les yeux devant ce genre de choses en prétendant que c'est un divertissement inoffensif.
Noise pollution.
Cette musique sont aussi sataniques que les images.
Il y a le power metal, la nouvelle vague de heavy metal britannique, le metal progressif, le glam metal, le pop metal, le stoner metal, le hardcore, le thrash metal, le grunge. Je crois toujours que cette musique n'est que divertissement inoffensif.
Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver. Émission numéro 106 de Noise Pollution en ce 5 juillet 2013 avec enfin le soleil qui est parmi nous. Et ça, ça fait quand même super plaisir, n'est-ce pas, au grand Timonier Laurent?
Oh que oui. Nous faisons l'émission avec de la lumière, de la chaleur qui rentre dans les studios grand ouvert de la plus rebelle des radios.
Ah, on est tous en tongs là, on a sorti nos bermudas avec les belles fleurs.
C'est très métal.
Non, mais c'est l'été, enfin, il est là. Ah bon, j'espère que tout le monde va bien, j'espère qu'il y en a qui ont eu leur bac aujourd'hui par exemple. Hein,
ah ouais, les petits padawans qui passent le bac.
Ah oui, il y en a, hein. Je sais que dans mon entourage il y en avait, ils étaient tout contents. Donc voilà, on va leur dédicacer l'émission hein, à tous ces bacs gagnants, voilà. Comme d'habitude, la rubrique support sur local team au milieu d'émission. On fera aussi le point traditionnel sur les concerts avec deux belles nouveautés, dont une qui a ravi le grand Timonier quand il l'a appris tout à l'heure.
Ouais, tout à fait. Je pense que ça va être un concert où j'irai, mais bon, voilà. Ouais. On n'en attend pas grand-chose.
Voilà. Donc, Noise Pollution, hein, au mois de juillet, fidèle au poste. Je pense qu'on s'arrêtera fin juillet. Oui. On va vous accompagner jusqu'au milieu de l'été. Alors, que nous proposes-tu au grand Timonier?
On va commencer par une nouveauté que j'attendais particulièrement ces dernières semaines. C'est le nouvel album des Queensrÿche. Parce que bon, bah.
On dit Queensrÿche.
Ouais, on dit Queensrÿche, mais alors moi j'ai grandi en disant Queensrÿche, donc je vais continuer. Donc,
mais je comprends pas, au grand Timonier, Queensrÿche a sorti un album il y a pas longtemps.
Oui, alors c'est l'autre version qui s'appelle Fuck You. Non, c'est pas ça. Frequently Unknown. Ce début, ça, tout le monde se demandait ce que ça voulait dire, ce FU. Donc oui, le Queensrÿche et Queensrÿche, donc est en deux versions. La version Gufftet,
le chanteur,
avec plein d'autres gens et personne d'autre de Queensrÿche. Et la version l'autre avec les trois membres historiques du groupe, mais pas les plus importants du coup.
Pas le plus important puisque Chris Garmo qui était parti à la fin des années 90, lui n'est jamais revenu. Hein.
Non, malheureusement. Alors du coup, l'album sort, il s'appelle tout simplement Queensrÿche. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait déjà un mini-album qui s'appelait Queensrÿche, donc du coup il faut rajouter 2013 à côté pour être sûr que ce soit le bon.
Ah, pas faux, ça veut dire.
Eh ben oui, c'est bizarre, ils avaient déjà fait un truc éponyme. Bon, bref, en tout cas, ce qu'on peut dire de cet album, c'est que c'est pas du tout la grande claque attendue.
Ah, ça, c'est quand même une déception.
C'est une très très grosse déception, parce que le Queensrÿche de Gufftet est pourri, mais ça, on le savait, on le sait depuis un moment, et on n'en attendait rien. Par contre, on attendait beaucoup plus de cette version-là, notamment avec Todd Lator au chant, qui est d'abord un très bon chanteur, et puis qui est très très proche du Gufftet quand il veut. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal fait, sauf que voilà, 11 morceaux, 36 minutes de musique pour un groupe qui est censé être dans les précurseurs du métal progressif, ça veut dire des morceaux entre 3 et 4 minutes, c'est pas très progressif globalement. Donc voilà, on est sur notre fin parce que effectivement, c'est un peu court, un peu concis, un peu bref, et puis ça révolutionne rien du tout.
Ça dépote
à la Queensrÿche. Oui, donc ça va pas, voilà. Bon, le mieux c'est de découvrir, c'est pas mal, ça s'écoute de manière assez agréable. Mais ils ont pas, voilà, c'est pas un album d'anthologie du tout. On s'écoute Vindication, donc extrait du nouvel album des Américains de Queensrÿche. Voilà, Vindication, extrait donc du nouvel album des Queensryche, version Song of Tet avec Todd Lator au chant. Voilà, donc c'est un album assez sympathique, mais on est très très loin des chefs-d'œuvre sortis dans les années 80.
Oh, le son est plutôt bon, hein. Moi, je
oui,
trouve
que ah bah notamment par rapport au Gufftet qui était pas terrible. Non, mais il enterre son concurrent, ça c'est sûr. Mais voilà, on attendait quand même quelque chose d'un peu plus
oui,
consistant.
Tout à fait. Allez, deuxième morceau de l'émission, c'est mon tour. Moi, je suis encore, même si je suis présent physiquement à Lyon, je crois que mon cœur est resté au Hellfest à Clisson.
Oh là là.
Voilà, bah oui, hein, comme très très nostalgique de cette parenthèse à chanter. Donc notamment un concert qu'on a un petit peu évoqué, mais pas tant que ça finalement, c'est le concert de Whitesnake qui s'est passé le vendredi après la tornade Twisted Sister. Donc Whitesnake, le groupe de David Coverdale. Donc un concert qui personnellement m'a beaucoup plu, notamment à cause des musiciens, notamment de la paire de guitaristes, ouais, Rob Leach et Doug Aldrich. Là, c'est vraiment
c'est des tueurs.
Des tueurs, des tueurs. Avec un David Coverdale un peu à la peine, hein, tout de même, hein, au niveau
vieillissant.
Vieillissant, oui, tout simplement. Je sais pas quel âge il a, près de
70.
Près de 70 ans, tout de même.
C'est un papy,
ouais. Mais bon, le concert, moi, j'en garde un très très bon souvenir, avec notamment une série de tubes sur la fin. Enfin, il a enchaîné Bad Boys, Fall for Your Loving. Enfin, c'était extraordinaire. Et au milieu de la setlist, il y a un morceau que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment fait une très très bonne impression. C'est un morceau qui était extrait de l'album sorti en 2008 qui s'appelle Good to be Bad. C'est un album qui à l'époque était complètement passé inaperçu pour moi. Enfin, j'avais à peine écouté. Et finalement, ce morceau m'a incité à redécouvrir l'album. Ce que j'ai fait, je l'ai ressorti de ma discothèque et vraiment un excellent morceau que je vais vous faire partager. Donc, c'était le 10e album à l'époque, 10e album studio, hein, de Whitesnake, parce qu'il y a une multitude d'albums live. Ils en ont encore sorti un très très dernièrement là.
La semaine dernière,
voilà. Ça faisait 11 ans, il est sorti en 2008, et ça faisait 11 ans que David Coverdale n'avait rien proposé en studio de Whitesnake. Donc voilà, je vous propose le morceau qui s'appelle donc, qui nous ont joué au Hellfest, que je vous ai partagé, ça s'appelle Can You Hear the Wind Blow. You don't have to Ah, Whitesnake, c'est quand même la très très grande classe sur les albums studio, quoi. C'est vraiment excellentissime. Donc tous les morceaux sont composés par Doug Aldrich à la guitare et puis Coverdale qui vient poser ses lyrics derrière. Voilà, excellent groupe Whitesnake. Donc moi, ça, tout le monde connaît. Ça date des années 70. À noter quand même que sur scène, ça devient de plus en plus compliqué, clairement, à se demander si David Coverdale ne serait pas le point faible de son propre groupe. Hein.
Ah bah si, c'est ça aujourd'hui, puisque il faut quand même voir que au niveau du chant, dès qu'il y a besoin de pas mal de chants, qu'est-ce qui se passe? Ray Beach et Doug Aldrich viennent apporter les chœurs.
Les chœurs, ouais, tout à fait. Puis même au niveau, il y a pas mal de gimmicks au niveau du concert, ils font pas mal de solos, des choses comme ça, pour justement économiser un maximum David Coverdale, qui ne monte plus trop du tout. Enfin, plus du tout dans les aigus, quoi.
Ouais, le pauvre.
Bah, voilà. 70 ans, tu viens de me...
Bon. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça.
Faudrait à 70 ans, je te vois pas au Hellfest en train de, hein, d'assurer le show, hein.
Non, c'est vrai. Donc, du coup, on poursuit et on va accélérer un petit peu le rythme, parce qu'on a commencé de manière un petit peu calme, avec un groupe qui s'appelle Avoc. Donc, je voulais prendre des infos, j'ai pris aucune info, donc je vois pas en parler. J'ai beau être en vacances, j'ai pas préparé. Donc voilà, Avoc, je crois que c'est leur troisième véritable album. Ils ont sorti en plus deux petits EP. Donc c'est dans les groupes du revival trash, donc dont je suis particulièrement friand.
De toute façon, en ce moment, t'as le choix. C'est soit le revival trash, soit le revival années 70.
C'est ça.
Donc là, tu joues la carte revival trash.
Voilà. Et donc plutôt années 80. Du coup, surtout que c'est du trash old school, c'est-à-dire un peu mélodique, des choses assez sympathiques pour moi. Donc Avoc, c'est le nouvel album, il s'appelle Unnatural Selection, ça vient juste de sortir. C'est pas original pour un sou, bien évidemment, ça lorne du côté de Metallica, de Slayer, enfin des classiques du genre.
Mais les premiers Metallica et les premiers Slayer,
oui,
on est d'accord.
Oui, des vrais disques de ces groupes-là. Et du coup, ça fait quand même super plaisir d'écouter ce genre de musique fait par des petits jeunes qui sont peut-être la relève du genre. On leur souhaite en tout cas. Under the Gun, c'est le morceau que j'ai choisi de ce groupe Avoc.
shoot. But you don't know when, you don't know who.
Mais c'est super bien ton truc là.
Ah
non, là j'avoue que je suis pas très sensible à le Revival 80, ouais. Mais celui-là.
Ouais, c'est, je pense, un assez bon groupe de trash Revival chez les jeunes là.
Ah ouais.
Donc voilà, on peut dire que c'est masterisé quand même par James Murphy, qui a entre autres été guitariste de Testament.
Exact.
Qui est un tueur au niveau technique. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi ils ont peut-être un bon son. Oui, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, je te dirai hors antenne, on en reparlera après.
Bon. Donc voilà, le groupe s'appelle Havok, ça s'écrit H-A-V-O-K, et je crois que c'est leur troisième album, et qu'ils ont fait aussi des mini-albums.
Bien, donc comme tu évoquais tout à l'heure, tu as fait le Revival années 80, Revival Trash, donc moi je vais proposer l'autre carte, c'est-à-dire le Revival années 70, toute la vague inspirée par Black Sabbath et autres, en évoquant un trio berlinois, allemand, les Cadavars. Je crois que tu connais ça, les Cadavars.
Ouais, on n'a pas eu l'occasion d'en passer, du coup c'est bien que tu le fasses, parce que je me suis réécouté ce deuxième album cet après-midi.
Abracadabra.
Voilà, et au niveau des riffs et de la musique, moi je suis très très fan.
C'est très bien.
La difficulté, c'est un peu la voix. Il faut plusieurs écoutes.
Exactement, il a une voix, donc c'est Christopher, le guitariste, leader, chanteur de Cadavar, qui a une voix un petit peu particulière. Donc il faut s'y faire, il s'appuie sur une base rythmique ultra solide, donc notamment Tiger, je crois qu'il s'appelle. Tiger, c'est le batteur, et un superbe bassiste qui s'appelle Mammouth. Ils ont tous des noms très rigolos. Voilà. Donc moi, j'ai eu l'occasion de les découvrir sur scène il y a pas très longtemps, lors du Stone Rising Festival qui se tenait au Klaxon de Oulin. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le blog pour lire mon compte rendu. J'ai un petit peu de pub, hein, il faut bien vivre. Voilà. Donc Cadavar, c'était son deuxième album sorti chez Nuclear Blast. Hein, donc Nuclear Blast profite un peu du Revival pour signer tous les groupes de qualité. Donc notamment celui-ci. Donc je vous propose, pour découvrir l'album Abracadavar, le morceau, ça s'appelle Doomsday Machine. Cadavar. Voilà les Allemands de Cadavar avec un extrait de leur album Abracadavar sorti chez Nuclear Blast. C'était une nouveauté, c'est sorti au mois d'avril. Le morceau c'était Doomsday Machine.
Alors on va rester dans les trucs un peu 70s, mais l'autre face des 70s, la face occulte. Faut quand même dire que c'est aussi pas mal à la mode ce petit côté occulte. Hein. On a les Devil's Blood, Ghost qui est moins années 70 mais qui est bien dans ce trip satanique, tout ça. Là je vous propose mon coup de cœur habituel.
Ah, ça a parlé de flûte là.
L'album de Blood Ceremony. Alors la semaine dernière j'ai passé le seul morceau acoustique et qui avait rien à voir de l'album. Je me suis un peu plantouillé en choisissant le morceau. Cette fois-ci je vous ai choisi un vrai morceau de Blood Ceremony. C'est-à-dire, voilà, cette musique là aussi inspirée par Black Sabbath, très occulte, ça parle de la magie noire, des choses comme ça, et avec cette particularité dans le groupe, qui est la chanteuse qui joue du clavier et de la flûte, ce qui est assez rare dans le métal, mais déjà dans la musique rock c'est assez rare aussi.
Autant que l'accordéon, je crois.
Voilà, dans le métal, effectivement, il y en a assez peu, quoique la vague folk
ah, oui,
a ramené
exact.
Cet instrument, même dans le métal. Donc voilà, l'album s'appelle Die Eldritch Dark et on écoute le morceau du même nom. Le groupe, c'est Blood Ceremony. Voilà donc Blood Ceremony avec certainement le seul groupe de métal connu à avoir une flûtiste.
Et à faire des solos de flûte.
Et à faire des à la place des solos de guitare. D'accord. Donc voilà, moi je suis ultra fan de ce groupe. C'est le troisième album de Blood Ceremony, donc dit Eldritch Dark. Le morceau qu'on écoutait d'ailleurs portait le titre de l'album. Et voilà, c'est tout dans ce genre-là, donc très Black Sabbath, avec effectivement de la flûte. Alors il n'y a pas de la flûte dans tous les morceaux. Des fois, c'est plutôt l'orgue qui prend le dessus. Mais voilà, c'est un très très bon groupe de rock occulte ou de métal occulte, comme on dit dans le monde moderne.
Dans le milieu, dans le jargon. Ah, quand l'affaire Louis Trio résonne, je suis obligé de chantonner sur le jingle, c'est forcément.
On est donc la seule émission métal à passer un jingle avec l'affaire Louis Trio.
Toutes les semaines, en plus.
Et ça, on n'a aucun risque d'avoir de la concurrence.
20h33, vous êtes toujours à l'écoute de Noise Pollution, chapitre numéro 106, sur la plus rebelle des radios, Radio Canu. Donc, eh oui, vous l'avez compris, il est l'heure de notre rubrique habituelle, support sur Local Team, sur un groupe de la région. Aujourd'hui, on va s'arrêter à Grenoble pour parler d'un groupe qui s'appelle Gravity Falls. Donc, un groupe formé en 2009. Qui pratique un espèce de un mix entre du rock et du métal, entre très énergique, très puissant. C'est un groupe qui, alors je passe aujourd'hui un de leurs morceaux qui s'appelle A Man on the Hill, un excellent morceau d'ailleurs, un peu fusion. Pour passer une annonce, parce que ce groupe en fait est à la recherche d'un chanteur et d'une chanteuse, leur chanteur qui joue sur ce morceau les a lâchés, donc ils sont un peu en stand-by là, donc ils ont besoin de votre support. Donc si jamais vous connaissez un chanteur qui serait intéressé et motivé pour les rejoindre, n'hésitez pas. A Man on the Hill, donc le morceau de Gravity Falls que je vous propose aujourd'hui.
Et t'as dit qu'ils étaient d'où?
De Grenoble.
À Grenoble, donc faites à Grenoble.
Ouais. We'll be right back. Gravity Falls avec leur morceau A Man on the Hill, pour lequel d'ailleurs ils ont réalisé un clip vraiment très surprenant, pas mal de moyens en fait à leur disposition, un clip vraiment sympa, je mettrai d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission, n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre, si vous avez Facebook sur notre page officielle, dans le moteur de recherche Facebook, vous tapez Radio Canu Noise Pollution et vous tombez de chez nous, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi avoir plus d'infos sur le groupe Gravity Falls dont on vient passer un morceau, vous tapez de la même manière Gravity Falls plus le mot band, B-A-N-D, parce que sinon vous tombez sur la page officielle d'une émission de Walt Disney. Bon bref, peu importe.
C'est moins, ouais, moins métal.
C'est moins métal. Et voilà, et notamment vous trouverez leur annonce pour un chanteur ou une chanteuse. Je continue avec un tout petit point des concerts. Bon, on a une liste qui est longue comme le bras.
Oui, parce qu'alors se rajoute chaque semaine deux concerts pour la rentrée.
Exactement, on a une rentrée, notamment un mois de novembre.
Le novembre, à un moment, il y a des concerts tous les jours presque.
Je sais pas comment je vais m'en sortir pour faire mes comptes rendus, à la vitesse où je vais. Oui, au mois de novembre, on a un mois de novembre extrêmement chargé. Et donc, alors, je voulais évoquer une date qui est tombée donc cette semaine, le 8 novembre 2013. Ça se passe à Serpès, donc c'est un petit peu au sud de Lyon, hein, vers la Vienne, dans ce coin-là. Il s'agit de la tournée d'adieu de Paul Di'Anno.
La énième tournée d'adieu.
Non, là, manifestement, ça a l'air vraiment d'être de la dernière. Paul Di'Anno, donc c'est le chanteur original de Iron Maiden.
C'est le chanteur c'est pas le chanteur original du coup, oui. Mais c'est le chanteur des deux premiers albums.
C'est le, disons, voilà, exactement.
Celui qui est connu pour être
Iron Maiden et Killers. Donc moi, j'ai eu déjà l'occasion de le voir. Il joue quasiment que des morceaux de ses albums.
On rappelle qu'il en a composé aucun, mais bon, c'est pas grave.
Tout à fait. Et puis d'ailleurs, sur scène, il a une attitude assez ambiguë, vu qu'il crache littéralement sur Iron Maiden. Ouais, tout à fait. Mais il joue que des morceaux de Maiden. C'est très étonnant. Mais c'est vraiment l'occasion d'entendre des morceaux que Maiden ne joue plus du tout. Hein, sur scène, lui, il les fait. Donc, voilà. Donc c'est le 8 novembre, ça se passe à Serpès. Et une autre date que je voulais évoquer, c'est le 14 novembre 2013. Donc c'est quelques jours après, ça se passe au CCO. Et c'est le retour pour mon plus grand bonheur, des Suédois de Dark Tranquility qui nous ont sorti un immense album qui s'appelle Construct. Et voilà, ils passent au CCO, Dark Tranquility sur scène et notamment à Lyon. C'est toujours énormissime, quoi. Il y a une ambiance terrible.
Alors, un groupe qui joue à la MJC au Totem.
Exact, avec
Bizarre comme lieu d'ailleurs.
Non, c'est une excellente salle. Mais... je sais pas si tu la connais, elle est un petit peu excentrée. La MJC au Totem, ça se trouve à Rieux-la-Pape le 26 octobre. Il s'agit donc de la double tournée, parce que c'est quasiment une double date avec Orphanadland et Clone.
Voilà. Donc ça risque d'être vraiment très très bien. Et d'ailleurs, on va écouter un titre du Orphanadland. Donc l'album est sorti il y a une quinzaine de jours. Ça s'appelle All Is One. Et les critiques sont dithyrambiques sur cet album. Et ben moi, je suis super déçu. Donc la semaine dernière, j'en ai passé un morceau. Je venais de l'acheter l'après-midi.
Tu n'avais pas encore le recul nécessaire.
Voilà, je l'avais écouté une fois avant sur Internet, tout ça. Et là, j'ai une semaine d'écoute. Et moi, je trouve ça très moyen.
C'était dur, là.
Ben ouais, mais parce que il faut rappeler quand même qu'Orphanadland a sorti un chef-d'œuvre qui s'appelait Maboul, qui était vraiment la quintessence du metal progressif teinté de death. Un truc vraiment incroyable comme album avec les
totalement unique. Ouais.
Ouais, les influences orientales. Etc. Là, Orphanadland a laissé tomber tout le côté extrême et tout le côté progressif, les deux d'un coup. Donc du coup, on se retrouve avec un album qui ressemble à une sorte de métal oriental, mais très facile d'accès. Alors oui, les morceaux sont très bien composés, il y a plein de violons, ça fait vraiment oriental, on accroche vraiment, mais moi, c'est pas ce que j'attendais d'Orphanadland, en fait. C'est simplement moi qui suis déçu, et l'album est peut-être vraiment très très bien. Alors, je vous propose le morceau All Is One, qui était un des premiers morceaux qu'ils avaient mis sur le net avant la sortie de l'album, mais sur la version collector que j'ai là, elle est chantée en turc, ce qui change, il y a plein de chants, il y a eu un peu de chants en hébreu, un peu de chants en arabe, donc là c'est en turc, puisqu'ils ont enregistré une partie du disque en Turquie, donc la version turque, c'est sympa d'avoir une version...
métal en turc.
On passe assez peu de groupes de métal qui chantent en turc, donc c'est l'occasion que jamais en Finlande.
Çeviri ve Altyazı M.K.
Alors, nous avons écouté donc. Non, tu rigoles pas à cause d'Orphan Edland.
Non, bien sûr, je me permettrai pas. Non, mais
à cause de ce qu'on a dit avant. Donc,
on se raconte des blagues.
Hors antenne, voilà. Orphan Edland, donc c'est le nouvel album All Is One, et c'est la version turque de All Is One, chantée en turc, je veux dire, qui est sur, en bonus sur la version Digipak, très très belle, hein, du coup, de ce CD brillant.
Ils font comme Manowar, il y a 25 versions du même morceau en toutes les langues. Il y a la version française.
Non, il y a pas. Y a
la version basque, peut-être.
Non, il y a que la version turque. et il y a un autre morceau qui est Children, qui est une balade très belle d'ailleurs, avec un couplet en arabe alors qu'il est en anglais dans la version d'origine. Donc voilà, un album ultra accessible. Ça devrait plaire effectivement à beaucoup plus de gens que ça ne l'était le cas avant avec Orphan Edland. Mais je pense qu'ils vont, je vais pas être le seul à être déçu de pas retrouver le côté progressif et complexe.
En tout cas, tu es le seul à avoir cet avis un petit peu mitigé, parce que la presse est absolument dithyrambique, comme tu l'évoquais en entrée.
Faut savoir se démarquer.
Oui, c'est bien. Allez, on continue avec ma simili rubrique que je fais depuis quelques semaines maintenant, émission 106. Donc on va s'intéresser à l'année 2006 avec un excellent groupe canadien qui s'appelle, alors c'est très compliqué vu que mon accent anglais est un petit peu pitoyable, donc un groupe canadien qui s'appelle Threat Signal. Voilà,
ouais, parce
je m'en suis pas trop mal senti.
Le threat, là, le
threat, la menace.
T-H-R-E-A-T, c'est pas
facile. Threat Signal. Threat Signal. Donc, du metalcore, du death metal, très très mélodique. Donc, en 2006, ils ont sorti leur premier album qui s'appelle Under Reprisal. C'était produit à l'époque par le bassiste de Fear Factory qui s'appelle Christian Volbers, quelque chose comme ça. Voilà, signé immédiatement chez Nuclear Blast. C'est un groupe qui a fait pas mal le buzz à l'époque, hein, sur le net, et qui finalement s'est fait remarquer par Nuclear Blast, qui les a signés. Depuis, ils ont sorti 3 albums. Moi, quand j'ai découvert l'album en 2006, ça a été la claque, la tuerie, vraiment un excellent album. Et d'ailleurs tellement excellent que j'ai l'opportunité de vous en faire gagner un exemplaire, chères auditrices et chers auditeurs, toi qui es de l'autre côté du poste de radio. Si tu veux gagner un album de Threat Signal, du premier album sorti en 2006, il suffit tout simplement de te manifester, hein, parce que
sur le
alors soit sur le Facebook,
soit sur le blog,
soit sur le blog
en
commentaire, vous mettez le premier qui nous fait un commentaire, n'importe quoi, ce que vous voulez, je lui envoie donc cet album de Threat Signal, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du metalcore, death metal mélodique à son meilleur, je vous propose A New Beginning. Voilà, les Canadiens de Straight Signal. Ah, c'est presque bon. Avec le morceau avec l'album Under Reprisal pour l'année 2006. Le morceau était A New Beginning. Donc, je rappelle, hein. Alors là, à la claque technique, le studio, là, l'ordinateur est un petit peu loin, donc je n'ai pas encore vu s'il y avait un gagnant. Si vous voulez gagner un exemplaire de cet album, n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire sur le blog ou sur la page officielle Facebook. Le premier qui nous fait un commentaire, je lui envoie l'album. Voilà. À noter que donc ils ont sorti 3 albums. Le dernier qui s'appelait tout simplement Sad Signal, l'album éponyme, sorti en 2011, toujours c'est Nuclear Blast. Et en son sein, il y a donc Christian Volbert, le bassiste qui était producteur sur le premier, qui est devenu bassiste et membre du groupe, et aussi le batteur original de Fear Factory. Donc la moitié de Fear Factory est aujourd'hui dans Straight Signal.
Voilà. Ah oui, c'est marrant. Ouais. Alors, on poursuit avec le groupe qui m'a mis la claque au Hellfest.
Ah, toi aussi, t'as encore un peu petit cœur au Hellfest encore.
Un petit peu de cœur au Hellfest. Un groupe que je connaissais avant, hein, dont j'avais tous les 10 sauf celui-là qu'on va écouter, que j'ai acquis depuis. C'est les Skindred, donc que je suis depuis un moment. J'écoutais déjà un petit peu ce qu'ils faisaient dans Dubwar, hein, puisque Benji, le chanteur leader du groupe, était dans ce groupe de fusion des années 90. Donc après Dubwar, il a monté Skindred, donc c'est de la fusion raga néo-métal, on peut dire ça comme ça. Ça a une pêche incroyable sur scène, c'est vraiment un truc de fou. Si jamais vous avez l'occasion de voir Skindred, il faut absolument voir ça.
En France.
Non, il est complètement dingue, Benji. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas l'habitude de voir quelqu'un qui a plutôt des références raga ou reggae sur des gros rythmes métal. Il met une ambiance qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aussi. Ça doit jouer beaucoup. Alors on écoute un extrait du dernier album sorti il y a un peu plus d'un an et demi, Union Black, et le morceau c'est Cut Them. Les Skindred.
Leave your family with pain. None of them can console. His only judge I know when the truth will end. Only leave me suffocating, heart stop beating. So slice to them a row. Watch them all fall down, man, like domino. The road to destruction is well wide, you know. Suffocating, heart stop beating. So
Voilà, un des derniers groupes à pratiquer la fusion, je pense qu'on peut le dire, c'est alors le mélange de plein de choses. Skindred, groupe anglais, emmené donc par Benji au chant. Et l'album, c'était Union Black. Oula, on est presque à la bourre, il nous reste une minute, mais on va quand même passer un morceau en entier.
Ouais, parce que, voilà, les potes sont là avec leur batte de baseball, mais bon, il nous reste un petit morceau à passer. Il s'agit d'une nouveauté, très très attendue d'ailleurs, le 9e album des Suédois de Amon Amarth, donc les gros vikings tout barbus qui nous reviennent avec leur hache et leur drakkar. L'album qui est sorti au mois de juin, ça s'appelle Deceiver of the Gods, avec depuis le Surter Rising, c'était l'album précédent qui était sorti en 2011, assez décevant. Je crois qu'Amon Amarth reprend du poil de la bête et nous sort un excellent album. Je vous propose le morceau qui s'appelle Shape Shifter, donc les vikings de Amon Amarth, et puis on vous souhaite une bonne semaine.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Voilà, ciao.
Bye.